Voici une question dont la réponse pourra changer votre vie. Pouvons-nous acheter notre entrée dans le ciel? Nous verrons la réponse que donne la Bible aujourd'hui à l'émission « À travers la Bible ».
Chers auditeurs, pour en savoir davantage sur le contenu de cette émission, vous pouvez contacter en tout temps Radio Espoir, sans frais, au 1-877-LESPOIR, 1-877-537-7647.
Bonjour, ici Caro. Je vous encourage à écouter attentivement les questions qu'on va poser aujourd'hui. Je ne serais pas surprise d'ailleurs qu'elles soient vos questions. Par exemple, qu'est-ce qui peut garder une personne éloignée de Dieu? Est-ce que les richesses peuvent nous éloigner de Dieu? Est-il difficile à un riche d'aller au ciel? De quelle manière pouvons-nous venir à Dieu? Est-ce que certaines personnes seront récompensées plus que d'autres dans le ciel? Et qu'est-ce qui détermine si nous accomplissons fidèlement la tâche que Dieu nous a confiée? Devons-nous travailler pour les récompenses dans le ciel? Demeurez à l'écoute. Les réponses que donne la Bible peuvent littéralement transformer votre vie et donner un sens réel à tous les jours qu'il vous reste à vivre sur cette terre. Le pasteur Jean Joly a ouvert sa Bible. Il a trouvé toutes les réponses pour nous. Mais premièrement, demandons à Dieu qu'il éclaire notre intelligence, qu'il ouvre notre cœur pour qu'on comprenne sa pensée. Prions. Oui, Seigneur, on désire connaître ta pensée. On désire connaître le message que tu as voulu nous transmettre lorsque tu as inspiré ceux qui ont écrit ta parole. Alors, éclaire-nous, fais-nous bien comprendre ce que tu désires qu'on comprenne, pour qu'on puisse être des meilleurs serviteurs pour toi, qu'on puisse mieux te connaître et mieux te servir. Amen. À toi, Régent.
Merci beaucoup, Caro. Mes amis, à la dernière émission, nous avons entrepris l'étude du chapitre 19 de l'Évangile selon Matthieu. Il semble que la progression dans la pensée du livre se soit arrêtée. Mais nous nous sommes arrêtés sur des points importants. Nous avons vu l'enseignement que le Seigneur a donné au sujet du mariage et du divorce. Une question avait été posée à Jésus pour l'éprouver et le piéger. Jésus a expliqué que Dieu a permis le divorce à cause de la dureté du cœur de l'homme. Selon le plan original de Dieu, le mariage devait être la relation la plus enrichissante et la plus merveilleuse que pouvaient avoir des êtres humains. Jésus a donné la seule raison admissible pour le divorce, soit l'adultère. Aujourd'hui, ce n'est plus une raison pour divorcer. On préfère souvent parler d'incompatibilité plutôt que d'adultère. Ensuite, Jésus a laissé venir des petits-enfants à lui, et il a interdit aux disciples de les empêcher de s'approcher. Tout couple qui considère divorcer devrait tenir compte des enfants. Jésus les a accueillis avec joie. Un grand nombre d'enfants furent empêchés de venir à Christ à cause du divorce de leurs parents. Un important pourcentage des inadaptés sociaux provient de foyers brisés et divisés. Continuons notre lecture de Matthieu chapitre 19, les versets 14 à 20. Et Jésus dit, « Laissez les petits-enfants, et ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux est pour ceux qui leur ressemblent. » Il leur imposa les mains, et il partit de là. Et voici, un homme s'approcha et dit à Jésus, « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ?» Il lui répondit, « Pourquoi m'interroges-tu sur ce qui est bon ? Un seul est le bon. Si tu veux entrer dans la vie, observe les commandements. Lesquels ? Lui dit-il. Et Jésus répondit, « Tu ne tueras point. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne déroberas point. Tu ne diras point de faux témoignages. » Honore ton père et ta mère, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Le jeune homme lui dit, « J'ai observé toutes ces choses. » Que me manque-t-il encore? » Le jeune homme a pu affirmer qu'il avait observé les commandements, mais il reconnaissait aussi qu'il lui manquait quelque chose. Les commandements cités par Jésus sont ceux qui se rapportaient aux relations entre les hommes. Les premiers commandements du Décalogue traitent de la relation entre Dieu et l'homme. Puisque ce jeune homme affirme observer les commandements cités, Jésus va maintenant porter son attention sur sa relation avec Dieu. Verset 21. Jésus lui dit, « Si tu veux être parfait, va, vends ce que tu possèdes, donne-le aux pauvres, et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Si tu veux être parfait, si tu veux suivre tous les commandements, en suivant Jésus, le jeune homme se serait rendu compte qu'il n'observait pas les premiers commandements du Décalogue qui se rapportent à sa relation avec Dieu. Le Seigneur Jésus était en route pour la croix. Si cet homme avait suivi Jésus, il se serait retrouvé au pied de la croix. Cependant, une chose l'empêchait de suivre le Seigneur. Ses richesses furent une occasion de chute pour lui. Pour vous et moi, ça peut être quelque chose de totalement différent. Verset 22. Après avoir entendu ces paroles, le jeune homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Son argent éloignait ce jeune homme du Seigneur Jésus. De nos jours, de nombreuses choses nous détournent de suivre Jésus-Christ. Les richesses ne sont qu'un exemple parmi d'autres. Le fait d'être membre d'une église entourée de gens corrects empêche de nombreuses personnes de voir qu'elles sont pécheurs. Elles se sentent en sécurité car elles se sont soumises aux rituels religieux et elles ont fait une profession de foi. Cependant, sans relation personnelle avec Dieu, qui découle d'une sincère repentance et conversion faite à la croix, personne ne peut suivre réellement Jésus-Christ. Qu'est-ce qui vous empêche de le suivre? Dans le cas de ce jeune homme, c'était ses richesses. Revenons à notre texte, verset 23. Jésus dit à ses disciples, « Je vous le dis en vérité, un riche entrera difficilement dans le royaume des cieux. » Ceci est toujours vrai aujourd'hui. Peu de riches, peu de politiciens, peu de grands de ce monde sont chrétiens. Verset 24. Je vous le dis encore, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Ici, Jésus emploie une exagération du langage imagé. Cela semble échapper à certains commentateurs bibliques. Certains affirment qu'il y a une porte à Jérusalem qui s'appelle « trou d'aiguille » ou « œil d'aiguille » ou « tour d'aiguille ». Un chameau doit s'agenouiller pour passer par cette porte, donc le Seigneur affirme qu'une personne doit devenir humble pour entrer dans le royaume des cieux. Ces commentateurs passent à côté de la question. Le Seigneur parle d'un vrai chameau et d'une vraie aiguille. Mes amis, je vous pose la question. Un chameau peut-il passer par le trou d'une aiguille? Vous savez que c'est impossible. Est-ce que Dieu pourra faire passer un chameau dans le trou d'une aiguille? Ce n'est pas dans ses habitudes d'agir ainsi, mais il pourrait le faire. Seul Dieu peut régénérer un homme. C'est ce que Dieu affirme ici. Impossible à l'homme, mais possible à Dieu. Il est plus facile pour un chameau d'entrer dans le trou d'une aiguille que pour un riche d'entrer au ciel. Plusieurs pensent qu'ils vont être admis au ciel à cause de ce qu'ils sont ou à cause de ce qu'ils possèdent. Jésus vous sauve lorsque vous venez à lui en reconnaissant votre péché, que vous ne méritez pas votre salut et que vous n'avez rien à lui offrir pour l'acheter. Aussi longtemps qu'une personne pense qu'elle peut faire quelque chose pour obtenir son salut, ou qu'elle peut l'acheter, elle ne peut pas être plus sauvée qu'un chameau peut passer par le trou d'une aiguille. Verset 25. Les disciples, ayant entendu cela, furent très étonnés et dirent, « Qui peut donc être sauvé ? » Prêtez attention à la réponse de Jésus. Verset 26. Jésus les regarda et leur dit, « Aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. » Voilà l'explication. Tout individu, qu'importe qui il est, peut être sauvé seulement s'il vient à Dieu, les mains vides, sans plaider aucun mérite. Si vous venez à lui avec une telle attitude, Dieu vous sauve. Verset 27. Pierre, prenant alors la parole, lui dit, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. Qu'en sera-t-il pour nous? » Il est facile de penser que Pierre pense à ses propres intérêts ici. Est-ce que Jésus lui a adressé un reproche? Verset 28. Jésus leur répondit, « Je vous le dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. » Le Seigneur ne lui a pas adressé de reproche. Il lui a plutôt dit « Quelle grande récompense l'attend !» Je pense que les chrétiens devraient travailler pour une récompense. Versets 29 et 30. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères ou ses sœurs ou son père ou sa mère ou sa femme ou ses enfants ou ses terres ou ses maisons recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. Dieu récompensera ceux qui abandonnent tout pour suivre Jésus-Christ. Ne quittez pas tous vos femmes et vos enfants en abandonnant votre responsabilité, à moins que le Seigneur vous y appelle. Mais la question que nous devons nous poser ici est celle-ci. Dieu a-t-il la priorité dans ta vie? Vous devez aimer Dieu plus que tout ce qui vous est très cher. Plusieurs chrétiens inconnus recevront une grande récompense et se verront assigner une place parmi les premières. Cependant, il est fort possible que de grands noms du christianisme, des leaders adulés et admirés pendant cette vie, ne reçoivent pas d'autre récompense que celle déjà reçue sur cette terre. Cependant, des chrétiens qui n'ont pas connu les honneurs et la célébrité seront récompensés. Quelle belle image nous avons dans ces versets. Maintenant, nous passons au chapitre 20 qui ouvre avec la parabole des ouvriers. Jésus poursuit sa pensée au sujet des récompenses. Débutons notre lecture, Matthieu chapitre 20, verset 1er. « Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui est sorti dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. » Il illustre le dernier point du chapitre précédent. Ce chapitre se termine en disant « Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. » Le verset 16 de ce chapitre dit « Ainsi, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Cette parabole se trouve entre deux versets qui expriment le même concept. « Les premiers seront les derniers, et les derniers seront les premiers. » Poursuivons notre lecture, les versets 2 à 5. Il convint avec eux d'un denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la troisième heure, et il en vit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la sixième heure et vers la neuvième, et il fit de même. La sixième heure correspond à midi, et la neuvième heure correspond à 15 heures ou 3 heures de l'après-midi. Poursuivons notre lecture. Les versets 6 à 15. Étant sorti vers la onzième heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire ?» Ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. »« Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. » Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur le salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun un denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et tu les traites à l'égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas tort. N'as-tu pas convenu avec moi d'un denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu d'un mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. » Cette parabole nous enseigne une vérité merveilleuse. Ce n'est pas la longueur de temps pendant que vous servez ou l'importance du poste que vous avez qui détermine votre récompense. C'est la fidélité avec laquelle vous accomplissez la tâche qui vous est confiée, aussi petite soit-elle. Nous ne devrions pas être surpris au ciel de voir Dieu récompenser cette dame, cette veuve, dont je vais vous raconter l'histoire à l'instant. C'est une dame que j'ai connue et qui venait à mon assemblée. Non, elle n'a pas fait partie de la chorale, elle n'a jamais présidé un comité, elle n'a pas enseigné à l'école du dimanche. En fait, elle n'a jamais rien fait et regarde la grosse récompense qu'elle reçoit. Que se passe-t-il ici au ciel? Eh bien, on découvrit que cette veuve avait élevé un garçon. Elle n'avait jamais adressé la parole à une foule comme un évangéliste, mais elle avait élevé son fils dans la voie du Seigneur. Son garçon est devenu un missionnaire. Cette veuve avait été fidèle dans la tâche que lui avait confiée le Seigneur. Quelqu'un pourrait protester. Elle n'a jamais travaillé autant que je l'ai fait. Vrai. Mais le Seigneur ne te récompense pas pour le montant de travail accompli, mais pour la fidélité avec laquelle tu as accompli la tâche qu'il t'a confiée. Mes amis, peut-être que Dieu ne vous a pas confié une grande tâche, mais êtes-vous fidèle à celle qu'il vous a confiée? Verset 17. Pendant que Jésus montait à Jérusalem, il prit à part les 12 disciples, et il leur dit en chemin. Maintenant Jésus et ses disciples quittent la vallée du Jourdain et vont vers Jérusalem. Versets 18 et 19. Voici, nous montons à Jérusalem, et le Fils de l'homme sera livré aux principaux sacrificateurs et aux scribes. Ils le condamneront à mort, et ils le livreront aux païens, pour qu'ils se moquent de lui, le battent de verge et le crucifient. Et le troisième jour, il ressuscitera. Le Seigneur n'aurait pas pu être plus clair. C'est la 4e fois qu'il aborde ce sujet, et cette fois-ci, il donne plus de détails. Cependant, les disciples n'ont pas compris, car cela ne collait pas à leur concept du royaume des cieux et du Messie. Nous qui lisons ces lignes aujourd'hui savons que Jésus-Christ allait à Jérusalem avec le projet d'y mourir. Pensez-y, il se rendait à Jérusalem afin de mourir sur la croix à notre place. Les disciples ne pouvaient pas concevoir cela. Au moment où Jésus annonçait sa mort à la croix, un événement historique majeur, la mère de Jean et de Jacques, demande une faveur à Jésus. Verset 20. Alors, la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. De nombreuses personnes servent Dieu avec un motif semblable. Verset 21. Il lui dit, « Que veux-tu ? » « Ordonne, lui dit-elle, que mes deux fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. » Dans toute autre occasion, cette requête aurait été naturelle de la part d'une mère qui veut que ses fils réussissent dans la vie. Malheureusement, sa requête révèle qu'elle ne comprend pas ce qui se passe réellement. Le Seigneur lui répond, versets 22 et 23. Jésus répondit, vous ne savez ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je dois boire? Nous le pouvons, dirent-ils. Et il leur répondit, « Il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, et ne sera donné qu'à ceux à qui mon Père l'a réservé. » Le Seigneur ne dit pas qu'il n'y aura personne à sa droite ou à sa gauche. Il dit que les positions dans le ciel ne seront pas données arbitrairement à Jean, à Jacques ou à qui que ce soit. Les places seront pour ceux qui s'y préparent. Notez ceci. Nous obtenons le ciel en faisant la requête. Nous n'avons pas gagné notre ciel. Nous l'obtenons par la foi en Jésus-Christ. C'est une grâce de Dieu. Cependant, votre position et vos récompenses dans le ciel sont fonction de ce que vous faites sur terre. Il semble que les chrétiens ont perdu de vue ce détail important. À quelle sorte d'avenir vous préparez-vous dans le ciel? Personnellement, je n'ai pas l'ambition de me retrouver à droite ou à gauche du Seigneur. Je sais que je suis déjà hors course. Cependant, je travaille pour obtenir une position. Nous devrions tous faire cela. Dans Philippiens, chapitre 3, verset 14, l'apôtre Paul dit « Je cours vers le but pour emporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. » Trop peu de chrétiens essaient d'obtenir de quoi que ce soit aujourd'hui. Nous devons reconnaître que le salut est gratuit, mais nous devons participer à la course pour les récompenses et pour obtenir une position dans le ciel. Chers amis, préparons-nous à entrer dans le ciel pour y recevoir notre récompense. Lisons dans la lettre de Paul aux Corinthiens, 1 Épître aux Corinthiens, chapitre 4, les versets 1 à 5. Ainsi, qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Pour moi, il m'importe fort peu d'être jugé par vous ou par un tribunal humain. Je ne me juge pas non plus moi-même, car je ne me sens coupable de rien. Mais ce n'est pas pour cela que je suis justifié. Celui qui me juge, c'est le Seigneur. C'est pourquoi ne jugez de rien avant le temps, jusqu'à ce que vienne le Seigneur, qui mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres et qui manifestera les desseins des cœurs. Alors, chacun recevra de Dieu la louange qui lui sera due, ou si vous préférez, sa récompense. Nous sommes encouragés, exhortés par le Seigneur lui-même à investir dans notre éternité, comme le Seigneur nous exhorte à le faire. Amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Exhortation donnée par le Seigneur lui-même que nous retrouvons dans nos textes déjà étudiés. Matthieu, chapitre 6, les versets 19 à 21. Oui, chers amis, visons juste, visons le ciel, visons notre éternité. Déjà, nous pouvons amasser pour notre éternité dans les choses que nous faisons ici-bas sur cette terre. Dieu a décidé que nous soyons participants à son œuvre. C'est son choix de nous donner l'occasion de travailler avec lui. Il aurait pu l'accomplir lui-même. Dieu nous fait confiance. Il y aura toujours une place pour un ouvrier de la dernière seconde. Et cette dernière seconde, dans le temps de Dieu, est très près de nous. Après cette seconde-là, il sera trop tard pour faire un choix. Chers amis, préparons-nous à la prochaine émission en lisant Matthieu chapitre 20 jusqu'au verset 24 et Matthieu chapitre 21 jusqu'au verset 17.
Merci, Régent. Si j'ai bien compris, on ne peut pas gagner notre ciel. Dieu est juste, sa justice est parfaite. Imagine, hein, si on pouvait acheter son ciel. Combien de gens, incluant votre animatrice, ne pourraient jamais aller au ciel? J'en aurais pas les moyens. Je crois que devant Dieu, on est tous des mendiants. Personne ne mérite d'aller au ciel. N'est-ce pas ce qu'on voit, hein, dans l'épître de Paul aux Romains chapitre 3, verset 23, « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Je me souviens, juste avant de recevoir le cadeau de la vie éternelle, la personne qui me parlait de l'amour de Dieu pour moi m'a dit, « Caro, il faut que tu avoues que tu es une pécheresse. » Ouf! Orgueilleuse comme je l'étais, j'ai tout de suite riposté. J'ai dit, « Je fais pas ça, des péchés, moi. » Immédiatement après, je me suis sentie coupable. Puis je lui ai dit, « Mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse, une fois que j'avoue là, que je suis une pécheresse? » Elle a dit, « Reprends-toi. » C'est-à-dire, change de direction. Détourne-toi de ce qui est mal devant Dieu. Mais pour recevoir son pardon, tu dois aussi reconnaître que par tes moyens, tu ne pourras jamais entrer dans le royaume de Dieu. Jésus est le seul moyen d'y avoir accès. Il a payé la dette de ton péché quand il est mort sur la croix pour toi. Puis il est le seul qui soit venu sur la terre sans jamais pécher. Lui, le Fils de Dieu. Dieu fait homme. Demande à Jésus de te sauver, de te donner la vie éternelle, et il va le faire. C'est ce que j'ai fait. Je suis donc venu à Dieu, les mains vides, puis je n'ai rien payé. J'ai reconnu que Jésus avait tout payé. D'ailleurs, il l'a dit avant de mourir, juste avant de mourir. Tout est accompli, donc on n'a pas à gagner notre ciel. On l'obtient par la foi en Jésus-Christ. C'est une grâce de Dieu. Mais on peut travailler pour nos récompenses, par exemple, comme Réjean nous l'a enseigné aujourd'hui. Par contre, on n'a pas à se soucier de la place que Dieu nous réserve là-haut. Mais comme l'apôtre, on a à courir pour remporter le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Es-tu dans cette course? As-tu été sauvé un jour? Est-ce que tu as reçu Jésus comme sauveur, comme Seigneur? Et si oui, est-ce que tu es encore dans la course? Ou bien si tu as ralenti le pas. Tu sais que si on ralentit un peu trop, on peut devenir des rétrogrades et on peut reculer au lieu d'avancer. Le Seigneur, il souhaite qu'on avance, qu'on court dans la carrière qui nous est ouverte, comme l'apôtre Paul l'a dit. Alors courons, courons avec ceux qui courent. Unissons nos cœurs et courons vers le but. On va remporter le prix de la vocation céleste qui est en Jésus seul.
Cher peuple du Québec, je profite de l'occasion pour vous inviter à participer au Camp de l'Espoir du 15 au 19 juillet 2003 qui se déroulera à Grand-Sault, Nouveau-Brunswick. Nous vous offrons une nouvelle vague d'aventure dans le Seigneur. En plus de faire des sondages mercredi et jeudi en visitant les gens de l'endroit, vendredi le 18 juillet à la polyvalente Thomas Albert, vous assisterez à un spectacle de marionnettes en fin d'après-midi. Et plus tard, en soirée, à une présentation de musique gospel, animée par le groupe Aujourd'hui l'Espoir. À ce dernier, un groupe de la Nouvelle-Écosse va se produire sur scène et une artiste chrétienne locale, Brenda Genot, gagnante d'un Christian Country Music Award au Tennessee, va nous faire connaître quelques-unes de ses chansons. Une belle soirée en perspective, je vous le dis. Et samedi matin, donc le 19 juillet, dès 9h, vous êtes invités à participer à notre merveilleux déjeuner d'espoir, toujours à la cafétéria de la polyvalente Thomas Albert de Grand-Sault. Venez entendre le témoignage d'une vie transformée par Dieu, celui de la chanteuse Caro. C'est donc un rendez-vous au Nouveau-Brunswick du 15 au 19 juillet 2003. Au plaisir de vous y voir.
Cette émission vous a été présentée par Radio Espoir.